Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'une chose, on va parler de foi, mais on va surtout se poser une question: sur quoi repose notre foi? Alors vous savez, sur quoi? Sur ton ventre, d'accord. F-O-I, pas F-O-I-E. Alors je vais d'abord vous faire un petit exercice. Vous savez, parfois, dans notre foi, on est ébranlé, ok? Et parfois on est encouragé. Alors, je vais un peu vous perturber, juste maintenant, là. Je vais faire un exercice. J'ai vraiment à cœur, pendant qu'on chantait la louange, je me dis, Ève, il faut que tu fasses ça. Alors, ça vient peut-être du Seigneur, je ne sais pas. Je vais vous demander de vous lever. Et je vais vous demander de perturber un peu vos habitudes, surtout pour ceux qui viennent là tous les dimanches, et vous allez changer de place. Voilà. Et alors, ceux qui aiment bien être derrière vont venir devant, ceux qui sont devant vont venir derrière, et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez vous mettre un peu tous ensemble par ici, si vous voulez bien. Voilà. La foi, c'est pas une routine. La foi, c'est pas une routine. La foi nous perturbe parfois. Alors, on va dire qu'ici, il n'y a personne qui vient. Et tout le monde va par ici. Et puis, ah, vous voyez? Eh bien, parfois, on peut peut-être s'asseoir à côté de quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de s'asseoir. Voilà. Non, 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 j'y dis pas là. Comme ça, tout le monde se réunit, vous voyez? Alors, on n'aime pas être déstabilisé. Hein? On n'aime pas qu'on change nos habitudes. Quand on vient, on aime bien s'asseoir à la même place, on aime bien tout ça. Mais ce n'est pas comme ça la marche avec Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ben oui. On aimerait que rien ne change, que ça soit toujours stable, mais ce n'est pas le cas. Et parfois, on aime bien dire qu'il y a des saisons, voilà. Mais quand il faut passer d'une saison à une autre, aïe, 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 c'est pas facile. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Alors merci d'avoir déjà joué le jeu. Et prenez toute la joie de vous asseoir à côté de quelqu'un. Vous n'avez pas l'habitude de vous asseoir. Ça ne fait pas du bien? Ouais, on a toujours besoin. On a toujours besoin de notre petite assurance. Heureusement, lorsqu'on est marié, souvent on garde sa femme ou son mari à côté de soi. C'est ce qui nous rend stable. Mais c'est bien. Je vois quand même, là, il y a quand même un couple qui a réussi et qui s'est dit, allez, ok. Bravo. Bon. Alors, on y va. Cette semaine, j'étais devant chez moi. Je rentrais et puis je vois quoi? Un petit oiseau. Oh, ouais, mais il n'était pas bien. Un petit oiseau, un petit moineau, tout fragile, et ça se voyait, il n'était pas bien. Donc, vous savez que j'aime les animaux. Donc, j'ai pris ce petit oiseau, je l'ai mis dans mon écharpe toute douce, et je l'ai mis à l'endroit où il y avait mes cochons d'Inde. Enfin, il n'y avait pas les cochons d'Inde, mais une cage où il était en sécurité. Malheureusement, du lendemain, je l'ai retrouvé, il était mort. Mais j'avais quand même à cœur de garder au cas où. Et puis, surtout, vas-y, appuie, on avait regardé 2-3 jours avant le film Petit Jésus. On vous le conseille, il est très rigolo et il a le mérite de poser des questions sympathiques. Tout, on ne peut pas dire que tout soit biblique, mais en tout cas, il y a des choses qui sont sympathiques. On vous le conseille. Hein, Mounir? Tu as bien aimé? Bon, voilà. Et dans ce film, justement, il y a la résurrection d'un petit oiseau. Oh! Oh! Je me dis, bon, c'est l'occasion de tester. C'est l'occasion d'y aller. Alors, avec Anna, on a prié, Seigneur Jésus, s'il te plaît, ressuscite le petit oiseau. Et je le tenais sur moi. Voilà. J'avais pris sur moi pour qu'il ait chaud. Je me disais, au moins, il aura chaud, il entendra mon cœur battre. Peut-être que ça va lui donner des ailes, pour ne pas faire un jeu de mots. Et au midi, ma petite, elle me demande... Il est où le petit oiseau? Parce qu'elle n'est pas à la cantine. Puis il dit, il est là. Et je le prends, et là, je vois une grosse boule, et je vois qu'il y avait un tic. Et je me dis, ah, il est mort de ça. Donc, on l'a enlevé, on a brûlé le tic, et on a attendu 3 jours. Bah oui, Jésus est ressuscité au bout de 3 jours. Hein. Ah, je dis aux filles, on attend jusque mercredi, en espérant qu'ils ne sentent pas trop comme Lazare, quoi. Alors, et donc, du coup, vous savez quoi? Et le petit oiseau? Manon. Mais non, mais justement, voilà. Et je me suis dit, mais Seigneur, je suis là en train de prêcher le dimanche, je suis là en train de faire l'école du dimanche, je dis à tout le monde, Seigneur est ressuscité, il y a des résurrections, il y a des miracles, et moi, quand je demande quelque chose, parfois, je ne l'ai pas. Quelle crédibilité! Je perds, c'est n'importe quoi. Et je dis, mais pourquoi? Pourquoi tu ne me donnes pas ce que je te demande simplement? Qu'est-ce qui se passe? Et là, dans mon cœur, résonne cette question. Ève, sur quoi repose ta foi? Bon. Ouais, bah, je suis quand même en colère. Et je suis quand même frustrée. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous d'être frustré dans votre foi, de proclamer des choses mais de ne pas le voir dans le réel. C'est dur. Alors, du coup, vas-y, enchaîne. Je dis, ok Seigneur, cette question, je la trouve, elle touchait mon cœur. Sur quoi, au final, lorsque je vois que le Seigneur ne ressuscite pas juste un petit oiseau, au final, sur quoi repose ma foi? Et avant de partir dans des choses extrêmement bibliques, on va y aller, vous inquiétez pas, je me suis dit, bah, si on devait y répondre, chacun, toi Christine, au fond, sur quoi elle repose ta foi? Et toi? Et pour finir, si on cherche dans notre cœur, dans notre pensée, qu'est-ce qu'on répondrait? Alors voilà les réponses que j'ai marquées, comme ça. Je me suis dit, bah, d'abord, voilà, donc qu'est-ce qu'on répondrait? Vas-y. Bah, d'abord, c'est mes parents, quoi. Qu'est-ce qui fait que j'ai la foi aujourd'hui? Bah, c'est parce que c'est mes parents qui ont voulu un jour m'inscrire au catéchisme, qui, pour eux, ces valeurs chrétiennes avaient de l'importance. Et ils m'ont transmis des choses. Et si je vous demande... Et vous, est-ce que vos parents ont joué quelque chose dans votre foi? Qui lèverait la main? Ok. Hein. Les parents? Ouais. Nos parents. Mais parfois, non. Parfois, non. Et cette chose-là, je pense qu'elle n'est pas à dénigrer. Après, je me suis dit, bon, Il y a mes expériences personnelles. C'est le moment où on se distance de la foi de nos parents. Vous voyez? Il y a un moment où moi-même, j'ai fait mes propres choix, où moi-même, j'ai expérimenté ma propre vie avec Dieu. Et ce moment-là, qu'est-ce qu'il a vécu, ce moment où on se distance un peu de la foi de ses parents? Alors là, je sais que c'est un petit peu... Bon, désolé. Ah, merci Jacques. Merci. Qui a vécu ce moment-là ou de se distancier? Voilà. Oui. Moi aussi. Oui, vas-y. Ce moment-là, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais ce n'est pas facile. C'est même très difficile. Et pourquoi? Parce qu'on aime tellement nos parents et on sait très bien qu'on peut décevoir. Et je vous l'avoue, j'ai déçu mes parents. Mais je devais suivre Dieu. C'était important. Et en ce moment, je suis en train de lire ce livre, Chrétien de l'ombre, de frère André, vous savez, celui qui a créé l'église, qui lutte pour l'église persécutée. Et je suis retournée par ce livre, parce que c'est l'histoire de musulmans dans un pays où il y a la charia, donc un contexte très compliqué, où des musulmans deviennent chrétiens. Et ils perdent tout, quoi. Et la séparation entre eux et leurs parents est terrible, terrible. Ils voient leurs parents les battre. Et j'ai compassion, parce que nous, on a peut-être déçu nos parents, voilà, mais c'est une chose d'être chrétien et de faire notre propre choix, mais de rester dans le christianisme. Mais c'est une chose d'être musulman, bouddhiste, juif, d'une autre religion, et de devenir chrétien. Là, il y a une grosse rupture potentielle, et c'est difficile à vivre. Alors, je veux vraiment prier, là, Seigneur, je te prie de prendre soin des cœurs des gens qui osent te suivre, malgré les conséquences. Alors, notre première foi en la foi de nos parents est-elle à dénigrer ? Ben oui, parce qu'on se rend bien compte que la foi de nos parents n'est peut-être pas réellement tout à fait juste. Mais pour autant, est-elle à dénigrer ? Eh bien, je pense que non. Pas du tout. Quel que soit l'endroit où tu viens, ce que Dieu t'a donné à travers tes parents, il te l'a donné. Quel que soit si tu étais protestant, si tu étais catholique, si tu étais musulman, si tu étais ceci, si tu étais cela, tu étais athée. Même les parents athées, ils ont pu donner quelque chose de bon dans leur foi. Parce que Dieu est au-dessus de tout cela. Alors vas-y. Et alors surtout, ce qui est important, je pense, c'est que notre foi a commencé dans une relation de père, mère à enfant. Et vous savez quoi ? Ça continue. Sauf que maintenant, le père, c'est Dieu. Mais c'est le même type de relation. Vous comprenez ? Et c'est pour cela qu'il est très important, lorsqu'on a eu un père absent, un père violent, un père qui n'était pas à la hauteur, de se rendre compte que le père dans les cieux n'a rien à voir avec le péché qui pouvait résider dans sa maison. Et ça, c'est encore un travail de guérison qui est très long, mais qui est possible à travers le pardon, bien sûr. Alors ça, ce sont mes réflexions personnelles, voilà. Et vas-y. Alors, attends, tu vas trop vite, chérie. Ah, désolé pour le chéri. C'est lui là-bas, mon chéri. Ah, attends, t'attends bien le go, s'il te plaît. Si je vous pose une question, alors là, maintenant, on va chercher la réponse dans la parole, ok ? Sur quoi repose notre foi ? Quel est le personnage dans la Bible qui est la référence même de la foi ? C'est... Ah, merci ! Oh, vous le saviez même avant l'avoir vu, n'est-ce pas ? Ouh, d'accord, ok. Donc tu peux y aller. Bien sûr, Abraham. Abraham est la référence même de la foi. Ok ? On va essayer de voir un peu plus pourquoi. Il est marqué en Genèse 12, 5, vas-y, je sais plus. 15, 6, pas du tout. Abraham crut en l'Éternel qui lui fut compté comme juste. Ah, on est juste parce qu'on croit à des moments où ça ne va pas. D'accord ? Et ça, c'est très important. Alors, du coup, je me suis posé la question, mais sur quoi repose la foi d'Abraham ? Au final, lui, il a été compté comme juste. On parle encore de lui aujourd'hui. Nombre de religions parlent de lui, juifs, musulmans, chrétiens. On dit que c'est le père de la foi. Je ne pense pas qu'il croyait qu'il allait être aussi connu encore des milliers d'années plus tard. Vous voyez ? Et il est compté juste par sa foi. Mais sur quoi reposer sa foi ? Et là, j'ai découvert une pépite. Une pépite. Alors avant, stop, non. Avant d'aller voir dans la Bible, j'aimerais vous poser une question. On sait bien que Abraham est parti de Our pour aller jusqu'en... Hein ? Non. C'est Our en chaldéen. C'est Our en chaldéen. Okay. Donc c'est là, il part de Our en chaldéen. En chaldé, t'as raison. Et il part jusqu'en... Ben oui, la terre promise qui est, à ce moment-là, Canaan. Qu'est-ce qu'il a dit ? Merci. Canaan. Ok ? Donc Israël actuel. Donc il va de là à là. Mais pourquoi il part ? Ne mets pas. Alors quoi ? Dieu lui a demandé. C'est ça, on croit ça. On est bien d'accord que dans la tradition de l'Église, on nous a toujours dit qu'Abraham est parti parce que c'est Dieu qui lui avait demandé. On est d'accord ? Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Vas-y. Ah, vas-y. Donc, on est bien d'accord. Il part de Our. Alors, c'est quoi le petit point ? Le petit point, comme ça. Oh, j'adore. Il part d'ici de Our. Hein. Donc là, on est dans l'Arabie Saoudite, juste au-dessus. Là. Je ne sais pas ce que c'est là aujourd'hui, mais donc, juste à côté de Babylone. Hop, il part. Et il va s'arrêter ici, à Haran. Il va faire une pause. Une grosse pause. Il ne va pas arriver tout de suite en Canaan. Il va arriver ici. Et à un moment donné, hop, il va repartir et il va aller là. Puis il va faire un petit détour en Égypte. Mais nous, on va s'arrêter ici. D'accord ? Voilà, un petit cours de géographie. On y va. Merci. Ouais. On y va. Qu'est-ce qui est marqué en Genèse 12, de 1 à 9 ? Théra prit son fils Abraham. Théra, le père d'Abraham, prit son fils, son petit-fils. Lot, fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai. Attention, Aran, c'est le nom d'un fils, mais il y a aussi la ville Aran. Okay ? Femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Ils arrivèrent à Aran et ils y habitèrent. La durée de la vie de Théra fut de 205 ans et Théra mourut à Aran. En fait, juste avant ça, on a la généalogie d'Abraham. Mais alors, j'ai envie de vous dire, pourquoi Abraham est parti de Our en Chaldée ? C'est son père. Petite pépite, n'est-ce pas ? Sur quoi repose notre foi ? D'abord, sur la foi de nos parents. C'est la foi de son père qui a fait qu'ils sont d'abord partis et qu'ils sont arrivés en Haran. Vas-y. Abraham s'est d'abord inscrit dans la foi de son père et il a suivi simplement. D'abord, la foi de nos parents n'est pas à dénigrer. Combien de fois on lit dans la Bible qu'il faut transmettre la parole de génération en génération, qu'il faut honorer ses parents, qu'il faut éduquer nos enfants. Cette transmission filiale, elle est ce qu'elle est, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas parfaite, mais aux yeux de Dieu, elle est importante. Et ça, pour moi, cette semaine, ça a été « Ah Seigneur, tu es en train de confirmer ce que j'avais dans le cœur. » Parce qu'on est toujours en train de se poser la question « Est-ce que ce qui est bien, ce que je vais dire, tout ça, il y a de l'anxiété qui monte ?» Et puis à un moment donné, le Seigneur confirme. Donc la foi de nos parents, merci Seigneur pour la foi de nos parents qui nous ont poussés à sortir et à faire confiance déjà en notre Père. Faire confiance en notre Père, en notre Mère. Ça nous apprendra un jour à faire confiance en Dieu et à nous détacher. La suite. Ah, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran, la ville que je vous ai montrée tout à l'heure. Abraham prit sa femme, Sarai, et son neveu Lot, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Il y avait de l'esclavage du temps d'Abraham. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. Ah, là, on passe un stade. Ce fameux stade dont je vous parlais tout à l'heure. Vas-y. On est à ce moment où Abraham passe à une foi transmise filiale, a une foi personnelle, où il expérimente que c'est Dieu maintenant qui le guide. Il lui dit, on va reprendre cette première, ce verset, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » Ça veut dire qu'il y a un moment donné, il quittera son père et sa mère pour ne faire qu'une seule chair. Il y a une séparation avec nos parents à un moment donné qui se fait et qui est naturelle, et qui est voulue, puisque nous devons expérimenter maintenant de ne plus suivre nos parents, mais de suivre notre Père qui est dans les cieux. C'est nécessaire et c'est voulu par Dieu. Et plus nous avons appris, petits, à faire confiance à nos parents, mieux nous saurons faire confiance à Dieu. Mais rien n'est perdu pour celui qui n'a pas appris à faire confiance. Rien n'est perdu. Donc, quitte la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Alors, mais je me pose, ça ne répond pas quand même à la question, parce que le but c'est de répondre à la question, sur quoi repose ta foi ? Sur quoi repose la foi d'Abraham pour qu'il dise, ok, je pars d'Aran et je vais en Canaan. Mais cette fois-ci, sa décision, pas celle de son père. On a juste l'Éternel dit à Abraham, en rouge. On a juste l'Éternel dit. Alors, il a dit, excusez-moi, mais il a dit comment ? Est-ce qu'il a dit qu'il avait un rêve ? Il est venu le voir direct en personne ? Je ne sais pas, est-ce qu'il a eu une pensée, une conviction ? Ben, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais Abraham, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Abraham était convaincu que le Seigneur lui demandait de partir. Alors, je vais vous expliquer un peu mon témoignage. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Ça vous intéresse ? D'accord. Alors, vous savez, mes premiers temps, j'étais dans ma maison avec mes parents, ils m'ont transmis leur foi, j'ai fait mes propres expériences dans l'église catholique, sympathique, en aumônerie et tout, cool, on partait en camp, c'était vraiment cool. Jusqu'au moment où je dois partir dans les études supérieures. Et là, quelque part, c'était pas du gâteau. Et j'étais en train de passer le concours de professeur des écoles pour la troisième fois. Et lorsqu'on est jeune et que notre foi vacille encore un petit peu, j'espère que la mienne est un peu plus forte aujourd'hui, et ben, l'enseignement n'était pas très très clair non plus, je suis allée voir une voyante 2 ans avant. Ah ouais, j'ai fait des bêtises. Je suis allée voir une voyante. Et elle m'a dit, tu vas avoir le concours de prof des écoles, mais tu ne dois pas abandonner. Ok, première fois, je ne l'ai pas. Deuxième fois, je ne l'ai pas. Je dis, ah, c'est bon. J'en ai marre. Surtout que moi, j'étais plutôt une bonne élève, donc je ne comprenais pas ces échecs répétitifs. C'était dur pour moi. Mon orgueil en prenait un coup. Et la troisième année, je commençais à servir un peu en tant que jeune auprès des jeunes dans l'église catholique. J'avais un contrat de jeune permanente. C'est-à-dire que j'étais payée pour aider la responsable en aumônerie. Et j'aimais bien. Je me sentais bien, en fait. J'avais l'impression de trouver ma place. Mais je passais quand même le concours de prof des écoles et j'étais remplaçante. Vient le moment où j'ai l'écrit, donc je passe à l'oral. Et là, je vais à l'oral. Je vois le sujet. Les TIS, c'est l'informatique à l'école. Pour ceux qui me connaissent, l'informatique, c'est pas mon truc. Et là, une conviction me tombe dessus. Et je me dis, non, j'abandonne. C'est pas là que je suis appelée. J'avais la conviction que Dieu m'appelait à servir auprès des jeunes dans l'église catholique et qu'il allait pourvoir à mes besoins de cette manière-là. Alors j'ai levé ma main, l'examinateur est venu et je lui ai dit, monsieur, j'abandonne. Mais non ! Qui dit ? Mais si. Mais non ! Allez-y, vous allez y arriver. Non, monsieur, je veux pas. J'ai plus envie. Il dit, je vais insister une dernière fois. Troisième point. N'abandonnez pas, mademoiselle, vous allez le regretter. Et là, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je lui dis, monsieur, c'est décidé, j'abandonne. Je ne veux plus faire cela. Je lui ai donné. Il dit, ok, dommage pour vous. Mais j'étais en paix. Je savais que le Seigneur me donnait une direction. Je me suis levée, j'ai sorti du bâtiment, et à peine j'ai mis le pied dehors, je me suis dit, oh, la voyante, elle m'avait dit qu'il ne fallait pas que j'abandonne. Et là, je me suis dit, oh, je me suis dit, mais non, c'est le bon chemin. J'ai fait le bon choix. Et c'est ainsi que j'ai commencé à être animatrice en pastorale dans l'Église catholique. Donc j'avais entre 50 et 80 jeunes à coordonner, à animer. C'est là où on m'a envoyé faire une licence de théologie. Et j'ai appris plein de choses avec le Seigneur. Et ma foi s'est fortifiée. Vous voyez ? Mais sur quoi a reposé ma foi sur ce moment-là ? Sur une conviction de cœur. Quelles sont vos convictions ? Qu'est là dans votre cœur ? Le Seigneur parle dans nos cœurs, dans nos pensées. On peut se reposer là-dessus. On a le droit d'écouter notre cœur. On prend le temps d'éprouver, bien sûr. Mais on a le droit de se faire confiance. On a le droit d'écouter. Si je n'avais pas écouté mon cœur à ce moment-là, je ne serais pas devant vous là aujourd'hui. Alors, on va continuer. Donc, Abraham part sur cette... Moi, je pense qu'Abraham est parti sur une conviction de cœur. Et nous, chez les évangéliques, on aime bien dire « Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit ». Non, mais peut-être qu'il ne dit pas exactement comme ça. Je te dis d'aller au café du coin et d'aller dire au monsieur au bar que Jésus l'aime. Non, non, non. Il ne parle pas toujours comme ça. Il parle aussi dans notre cœur, dans les convictions. Et il est bien marqué, Paul le dit, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des choses en se disant c'est la volonté de Dieu, mais on n'a pas le cœur. On n'a pas l'envie. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un mauvais terreau, ça. Le cœur. Mais attention, là, on va passer dans un autre stade. L'Éternel apparut à Abraham. Oh ! Oh, bah ça existe quand même. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Quand il est arrivé à Canaan, hein, Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voilà, il a carrément fait un autel. Il a vu Dieu. Donc il a carrément fait un autel. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes, à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Négeb. Abraham était un nomade, hein, d'accord ? Donc ben, c'est normal, il bougeait. Mais il restait dans le pays de Canaan. Bon. Là, vous voyez, il y a un autre stade dans la foi. On passe une étape. L'Éternel est apparu. Donc là, on est dans l'ordre du surnaturel. On est d'accord ? Vas-y. Ici, nous passons à une manifestation où Dieu se donne à voir. Ok, vas-y. Ce genre de manifestation est-elle plus importante que celle d'avant ? Qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce que Dieu donne plus d'importance au fait de se voir d'une manière surnaturelle ou donner une conviction de cœur ? Y a-t-il une hiérarchie entre les différentes manières de se montrer ? Non. Non, c'est pareil. Je dirais même plus. Il ne faut pas oublier que la foi d'Abraham se repose d'abord sur la foi de son père, puis une conviction de cœur. Et ensuite, il a vécu des choses surnaturelles. Mais d'abord, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok ? Vas-y. Alors, j'avais envie de vous dire quelque chose. Merci Jacques. J'avais envie de dire quelque chose aussi. Souvenons-nous de ce que dit Jésus après sa résurrection. Lorsque tout le monde l'a vu, sauf un. Le pauvre. Qui l'a pas vu ? Thomas. Pas de chance, lui, hein ? Il l'a pas vu. Et il a dit, moi, si j'ai pas une manifestation surnaturelle, je ne croirai pas. Jésus lui a clairement dit, ok, je suis là. Mais heureux, hein, ceux qui a cru sans avoir vu. Hein. Heureux, ceux qui a cru sans avoir vu. Et Abraham n'a pas attendu de voir pour croire. Et il fut compté pour juste. Au niveau de mon témoignage, c'est reparti pour saison 1, épisode 2. Ça vous va? Ok. Je suis animatrice en pastorale. Je suis même responsable d'aumônerie. Et je mets en place des festivals pour la cathédrale de La Treille. Oh, j'ai une bonne place, vous voyez. Je gagne bien ma vie. Je donne des cours de religion à Marc Institution, là, dans le lycée catholique de renommée, à Bocanlini. Ah là là, je commence vraiment à avoir une certaine notoriété dans le diocèse de Lille. Bon. Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, il s'est passé un jour où j'ai rencontré une jeune évangélique qui me parlait de cette foi très spirituelle que je n'avais jamais trouvée, moi personnellement, dans l'Église catholique, mais que je savais qu'il existait. Et j'avais soif de cette vie d'esprit. Mais je savais pas ce que c'était, mais je l'ai rencontrée. Et puis, il s'est passé, à ce moment-là, plein de choses surnaturelles. J'ai été bombardée. Et sur ces choses surnaturelles qui se sont passées, cela m'a donné la foi de risquer ma place, d'accepter que l'Église catholique n'allait pas comprendre ce qui m'arrivait. Le fait que je me rebaptise allait me couper de la mission que j'avais. J'ai perdu mes emplois. Tous mes emplois. Il n'y en a pas un seul qui a dit bah, si, Ève, écoute, nous on te prend. Nous on s'en fout. Non, 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 tous, les trois, ont dit non. On ne veut pas se mettre l'évêque à dos. Mon mari qui me dit tu rêves. Non, on ne va pas risquer la santé financière de notre foyer parce que, soi-disant, tu as entendu Dieu cette nuit. Mais mon mari a fini par parler au cœur de... Dieu a parlé au cœur de mon mari. Je suis encore émue, vous voyez. J'ai dû attendre quoi, un ou deux mois. Puis un jour, mon mari me dit, tout ce qui m'importe, c'est que tu sois heureuse. Et je vois bien que si tu restes là, tu vas t'éteindre. Alors c'est d'accord. Et je lui dis, sur ces paroles, je te promets que Dieu pourvoira aux besoins de notre famille. Je suis encore émue. Et c'est ce qu'il a fait. Alors c'était fini. J'ai dû au revoir à tous ces jeunes que j'aimais, mais profondément. J'ai encore leur petit tableau chez moi. Ève, on t'aime, parce qu'ils donnent de l'amour, les jeunes. Hein. Et il a commencé un long temps de désert. Je me suis retrouvée sans rien. J'avais peur. Et si je m'étais trompée? Et si Dieu ne m'avait pas parlé? Alors je vais vous dire tout ce qui s'est passé. Deux nuits, j'ai entendu le Seigneur me dire d'une voix audible, abandonne-toi. Quatre fois il me l'a dit dans la nuit. Abandonne-toi. 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 Lâche prise. Fais-moi confiance. Je me suis réveillée. J'ai dit, je crois que Dieu m'a parlé. J'en revenais pas. Une autre nuit, il m'a dit, le paraclet vous protégera. De ce temps-là, j'avais une vague idée de ce que c'était le paraclet, mais je ne m'en rappelais plus. Je suis tout de suite allée voir dans la Bible et j'ai vu que le paraclet, c'était le Saint-Esprit. J'ai vécu ma première délivrance. J'en ai vécu surtout une. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était dur. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas compter sur mon mari qui ne comprenait pas tout et je ne voulais vraiment pas l'effrayer. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Je peux tout lui dire. J'ai eu peur de cette réalité. Et puis, j'ai chassé un démon, enfin, même plusieurs, mais surtout un, Parce que là, j'ai aucun doute que c'était ça. C'était clair. Et puis, j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit le jour de l'anniversaire de mon mari. Qu'est-ce que c'est beau comme signe. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Plein de choses. Est-ce que j'oublie des trucs? Ah oui, grosse... J'ai eu la chance, enfin, le Seigneur m'a fait vivre ça, où j'ai prié pour une amie. Elle avait une maladie auto-immune. Elle avait des crises où elle ne bougeait plus. Elle était, voilà. Et j'ai prié pour elle. Et la semaine d'après, elle allait à l'hôpital et elle n'avait plus rien. Et voilà. Bref. Qui a vécu ce genre de choses? Personne. Levez la main, s'il vous plaît. Je me sens un peu seule, là. Ok. Il y a un moment donné, si tu n'as pas encore vécu ces choses-là, tu le vivras. Vas-y. Mais attention. Attention. Il y a un risque. Il y a un risque du goût des choses surnaturelles. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que la foi d'Abraham a été fortifiée par le fait de voir Jésus, c'est sûr. Mais est-ce que ça reposait là-dessus? Pour Abraham, non. Je ne pense pas que ça reposait là-dessus. Mais ça a fortifié. Est-ce que moi, ma foi repose sur ce que j'ai vécu? Les guérisons, les démons, nanana, tout ça? Non. J'avais la foi avant déjà. Mais ça a fortifié ma foi. Et ça m'a aidé à prendre une décision importante. Alors, c'est quoi le risque? Vas-y. Alors, on aime bien regarder des films. Et un deuxième film qu'on vous conseille beaucoup, c'était bien, Mounir? C'était très bien. C'est Jesus Revolution. C'est un deuxième film qui est excellent et qui parle du réveil qui s'est passé en Californie, hein, c'est ça? Californie. Notamment avec trois pasteurs. Donc, il y a d'abord un vieux pasteur qui est là, ici, là. Un vieux pasteur, il n'y a plus personne dans son église, c'est dur. Et c'est au moment des hippies. Et puis, il va rencontrer lui, Lonnie Frisbee. Lui, c'est Tutuk Smith, je ne sais plus exactement. Et lui, Lonnie Frisbee, qui. Et donc, dans son église. À lui. Bon, je ne vais pas tout dire, hein, d'accord, mais en gros, les hippies, on ne les aime pas, c'est l'engeance du démon, patati patata. Et lui, c'est un évangéliste chrétien, un vrai hippie, hein, ça se voit. Et puis lui, voilà, c'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, pas de père, la mère difficile, mais Dieu fait des miracles, hein, n'est-ce pas? Et il se passe un réveil. Et notamment... À un moment donné, avec lui, Lonnie Frisbee, eh bien, à un moment donné, il est en train de prêcher et boum, il reçoit des paroles de connaissance. Et là, il rentre dans une vie spirituelle incroyable, où il dit « Toi, t'as ça, toi, t'as ça, toi, t'as ça », et prie, et prie, et prie, et que des guérisons partout. Le réveil, quoi. Hein. Quelque chose que nous, on a envie de vivre. On fait « Wouh, ouais !» Tu vois. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, dans le film... On retrouve cet évangéliste, pasteur, qui est là en train de prier Seigneur et de lui supplier de ne pas lui enlever ce qu'il lui a donné. La peur de perdre ses manifestations. Notre foi va commencer à se reposer sur ses manifestations. Alors que ça ne doit pas être sur ça. Oh, vas-y. La peur de perdre ce genre de manifestation, ça peut nous ronger de l'intérieur. Est-ce que vous voyez où je veux venir avec mon histoire de petit oiseau? Lorsqu'on a commencé à vivre du surnaturel, c'est comme une drogue. On a du mal à se dire qu'on peut très bien vivre chrétien sans ces manifestations. Et que c'est normal. Et qu'il n'y a pas de culpabilité, pas de pression à avoir. que des millions de gens sont devenus chrétiens sans voir quoi que ce soit. Vas-y. Et donc, lorsqu'on vit ce genre de surnaturel, il y a des questions qui vont venir tuer notre foi. Pourquoi il n'y a pas ce genre de manifestation? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Pourquoi il n'y a pas de guérison? Et pourquoi Jésus ne vient pas me voir? Et pourquoi Jésus ne ressuscite pas mon petit oiseau? Ça va venir tuer notre foi. Et la foi de nos parents, on va l'oublier. Et la foi de conviction de cœur, on va l'oublier. On va se dire que ça, c'est de la gnognotte par rapport à un homme qui se lève de sa chaise et qui est en fauteuil roulant. On va dire ça, c'est mieux que ça. Eh bien, on a tort. On a tort de penser comme ça et ça va venir tuer notre foi. Vas-y. Alors, le Seigneur m'a dit, il va falloir accepter ça. Accepter ce verset. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Il y a deux choses à accepter. C'est que l'Esprit mettra le réveil où il veut. Et un réveil, ça ne dure qu'un temps. Partout. L'Esprit vient. L'Esprit repart. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il semble bon. Ce n'est pas des caprices qu'il fait. C'est parce qu'à un moment donné, s'il voit que Lonnie Frisbee, il commence à partir en freestyle, j'ai pas fait exprès pour le jeu de mots, frisbee, freestyle, il va arrêter et il va dire « repars à la base ». Et c'est ce qui va se passer, il va partir. Lonnie est parti. Parce qu'il ne se sentait pas accepté par ses pasteurs. Parce qu'il disait « ouais, les pasteurs, ils me font pas confiance. Moi, je sais qu'il y a telle et telle personne qui a besoin de ça. » Et puis lui, il dit n'importe quoi. Non. Non. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'a donné un don surnaturel que tu dois commencer à dénigrer ceux qui ne l'ont pas. Continue à écouter les anciens. Continue. Si le Saint-Esprit voulait que le premier pasteur aille dans le sens de Lonnie, mais le Seigneur lui aurait parlé. Il lui aurait dit. Mais ce n'était pas passé comme ça. Et ça a créé des embrouilles dans les églises. Et je ne veux pas que ça arrive ici. Je ne veux pas que ça arrive ici. Et c'est pareil au niveau du Saint-Esprit qui est en nous. C'est-à-dire que qui a la conviction ici d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Ok. Je regarde pas. Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut, je viens de le dire. Ça veut dire que vous savez très bien que vous ne savez pas réellement si le Seigneur ne va pas vous dire à un moment donné d'aller ailleurs. Vous ne savez pas pour combien de temps vous allez être là ou là. Vous êtes complètement au service du Seigneur. Et si le Seigneur, par le biais de mon cœur, d'une conviction de cœur, quelque chose de surnaturel, et par l'Église qui m'entoure, me dit « il faut que tu ailles là-bas », j'irai. Oui, mais non, mais je viens de commencer à peine de prêcher à l'Église de Wavrin. Va, ok. On sait bien que ça se passe comme ça. Et on fait confiance. Est-ce que je me suis bien fait comprendre sur les risques du surnaturel? Ok, on y va? Alors, et le Seigneur, il m'a donné la conviction depuis longtemps de vous parler, de faire un focus sur Bible et foi. Et j'ai une première question à vous poser. Est-ce qu'Abraham avait une Bible avec lui? Dites-le. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait rien. Il n'avait pas de Bible. Alors nous, on est là, Bible, 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 oui, mais oui, bien sûr, mais moi aussi, je dis ça, Bible, 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 je suis toujours mon nez dedans. Et je chéris la Bible sur mon cœur, parce qu'elle m'aide, quelque chose de fou. Encore là, avec le père d'Abraham, c'est une pépite pour moi, j'ai adoré. Mais la foi d'Abraham ne s'est pas reposée sur la Bible. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, et c'est pas un drame de le dire. Mais parfois, j'ai l'impression que si on dit ça, « Oh, t'es en train de dénigrer la Bible !» Mais non, je ne dénigre pas la Bible. Je dis juste que Abraham n'a pas eu besoin d'avoir une Bible pour croire. Ok, on y va. Sur quoi pouvons-nous nous reposer sans Bible alors ? Eh oui, si on regarde un peu dans le temps, il y a plein de gens qui, avant Gutenberg, avant l'imprimerie, ben ils savaient pas lire. C'est pour ça que quand l'imprimerie est arrivée, il y a plein d'écoles chrétiens qui sont nées pour apprendre aux gens à lire. Mais sur quoi reposer leur foi ? Ah, sur ce qu'ils avaient entendu. Mais de la part de qui ? Des anciens. Ok, on a trouvé la solution, vas-y. Alors, dans notre vie avec Mounir, on rencontre des gens, et notamment on a rencontré le collègue de Mounir, et en fait, sa femme est très croyante. Et elle dit oui à un frère qui a une chaîne YouTube, frère Paul Adrien, mais sa tête, voilà. Et alors, il dit des choses super intéressantes, des choses sur lesquelles, avec lesquelles bah, forcément je ne suis pas d'accord, et d'autres avec lesquelles je suis vraiment très d'accord. Ah ouais, beaucoup. Et je me dis, ah, ce qu'il dit, c'est vraiment bien. Et il a dit une chose vraiment très, très vraie. Vas-y. Sur quoi la foi des premiers chrétiens se reposait ? Est-ce qu'ils avaient le Nouveau Testament ? Non. Mais ils avaient quoi ? Ils avaient Jésus. Et ils avaient l'Ancien Testament. Donc on a les deux. On avait l'Ancien Testament et il y avait l'avènement de Jésus. Mais il manque un troisième paramètre. Oui, redis-le. Ben oui, ils avaient les apôtres, ils avaient les premiers disciples. Ok ? Donc on prend le combo. L'Ancien Testament. La mort et la résurrection de Jésus avec un truc de ouf qu'ils ont vécu. Et l'enseignement de l'Église. Et ça, ça a fait la foi des premiers chrétiens qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Donc, vas-y. Oh. Bon, alors on va repartir à Abraham. Vas-y. Tuk 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 tuk. Ah là, pas de Nouveau Testament. On avait le texte de l'Ancien Testament à la lumière de l'avènement de Jésus, ce qu'on vient de dire, ok ? Sur l'enseignement des premiers disciples, en gros, notre foi repose sur l'Église en premier. En premier, l'Église. Ouh, du coup, on comprend que c'est important ce qu'on est en train de faire là maintenant. Si on n'a pas ça là maintenant, là, ça va s'éteindre. Hein ? On imagine, il n'y a que des gens solo dans leur maison, juste avec la Bible et Dieu. Ok, ça va fonctionner. Ah, pas Dieu quand même, il est tout puissant. Mais est-ce que c'est le premier choix de Dieu ? Dieu aurait très bien pu faire comme ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu a voulu. Dieu a voulu que notre foi repose d'abord sur le témoignage et l'enseignement des apôtres et des disciples qui l'accompagnaient. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Donc s'il y en a un qui me dit « Non mais moi je suis bon, je suis ma Bible avec chez moi, tranquille. Bah, ok, d'accord, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Oui, mais moi je fais la volonté de Dieu. Ah bon ? T'es sûr ? Tu manquerais pas un peu d'enseignement de la part de l'Église en toute douceur et toute sympathie ? Parce que tu sais, moi, quand je te parle, je dois avant tout t'aimer et pas te juger. Ok. Vas-y. Alors, du coup, deux pièges à éviter qui tuent la foi. Ok ? Ne pas mettre l'Église gardienne de la bonne interprétation de la Bible. Et c'est le gros problème de l'Église protestante. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur l'interprétation de la Bible, pouf, il y a une Église qui naît. Mais c'est ça. Mais attendez, je ne suis pas meilleure que les autres. Hein. Pourquoi je suis partie de la première Église dans laquelle j'étais ? parce que le Seigneur me l'a dit. Non, il y a deux choses. Il y a deux choses. J'étais pas d'accord avec eux sur certaines choses. Et de deux, le Seigneur m'a vraiment dit qu'il fallait que c'était le moment pour moi de partir. Mais je voulais pas partir en brise-bouille, en désaccord. Ok ? On peut très bien ne pas être d'accord, mais ne pas être en désaccord. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? On peut très bien ne pas être d'accord et continuer à s'aimer. C'est vrai, non ? C'est comme ça qu'on doit faire. Donc, ne pas mettre l'Église gardienne de la bonne interprétation de la Bible. Parce qu'il y en a une, hein. Il y a une bonne interprétation, hein. S'il y en a qui me disent non, mais moi j'interprète comme ça, et puis il y a différentes interprétations, puis on a le droit, et puis non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ensemble, on peut trouver. On peut trouver la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Il va nous guider. Allez, on marche dans la foi. Vas-y. Donc l'Église rattrape les mauvaises interprétations de la Bible. Mais oui, c'est le rôle. Nous-mêmes, on se rattrape les uns les autres. Si je commence à dire, en fait, Jésus, il est mort à la croix, mais bon, il n'est pas ressuscité. Puis quelque part, c'est pas très important. J'ai déjà eu le coup. Hein. C'est pas très important qu'il soit ressuscité ou pas. Dans tous les cas, c'était un mec bien. Voilà. Bah, s'il n'y a pas l'Église pour lui dire, bah, ah bon ? Mais s'il n'y a pas de résurrection, sur quoi les premiers chrétiens, alors, ils se seraient basés pour avoir le courage de mourir dans l'arène ? Juste parce que c'était un mec bien ? Ah bah, je suis désolée, moi, si c'était juste un mec bien, je ne serais pas mort dans l'arène. Hein. L'Église rattrape les mauvaises interprétations de la Bible. L'Église rattrape les dérives de l'Église. On se rattrape mutuellement. Ça fait mal parfois, on est d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Ok ? Vas-y. Et donc, les dérives possibles. Bah, faire dire de la Bible ce qui nous arrange. Ok ? Laisser les traditions gagner sur le bon sens. Ça, quelque chose qui me gratte le poil souvent. Il y a des traditions partout. Hein. Et il y en a aussi dans l'Église protestante. C'est pas que l'eau de l'Église catholique. Hein. Et je vous dirais même, la tradition, c'est pas forcément mauvais. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est la première tradition de l'Église qui a donné, pour finir, naissance à la Bible. Pas de tradition, pas de Bible. Mais il ne faut pas que cette tradition, elle aille au-dessus de la parole de Dieu. Vous vous souvenez de ce que Jésus dit, hein ? Au nom de votre tradition, vous annulez les paroles de Dieu. Mais est-ce que Jésus, il a dit, la tradition, c'est nul ? Non, il n'a pas dit ça. On peut, au nom de notre propre interprétation de la Bible, briser la foi des autres. On a quelqu'un qui arrive dans l'Église et qui fait, par exemple, quelque chose que nous, on n'aime pas trop, par exemple, de la voyance. Et elle commence à dire, bah, vous savez, moi je tire les cartes, et puis Jésus m'a parlé à travers les cartes.
Qu'est-ce que je veux lui dire ?
Didier, viens ici, s'il te plaît. On va se reposer les uns sur les autres. Mais si on lui dit direct, non mais t'as rien compris ma fille, va relire ta Bible et puis tu reviens, une fois que t'auras bien lu, ah ben on va en perdre des gens à sauver. On va en perdre. Eh ben avec douceur, on va lui dire, ok, je suis pas trop d'accord avec ce que tu fais, mais je t'aime. Et de toute manière, le Seigneur te dira si c'est moi ou si c'est toi qui as raison. Et on se repose sur Dieu, on se repose sur le Saint-Esprit, on peut pas tout faire. Ok, et du coup, on risque de ne plus être dans la foi, à faire notre petite Bible à nous. D'accord ? Ok. Le deuxième piège, c'est rendre un mauvais témoignage de la foi chrétienne. Et ça, l'histoire nous le dit. Hein. Les croisades, les trucs comme ça. Hein ? On, nous aussi, on a eu notre djihad à tuer au nom de Dieu. Hein ? Faut pas l'oublier. Et je vais vous donner un exemple, vas-y. Donc les dérives, vas-y. Hein. Faire des hommes de la Bible des exemples sans faille. On peut avoir un lien à la Bible sacro-sacramentaire. Vous voyez ? Où la Bible, c'est Dieu en personne. Non, Dieu, c'est Dieu. Et Dieu nous parle à travers sa parole. on remet les choses à sa place. C'est, excusez-moi, et j'aime les musulmans, je les aime de tout mon cœur, mais la Bible, c'est pas la même relation. La relation qu'on a à la Bible n'est pas la même relation qu'on a au Coran. Le Coran nous a été révélé par l'ange de Djibril, c'est la parole de Dieu, c'est comme ça, point barre, t'as pas interprété, c'est comme ça. Non, la Bible, c'est pas comme ça, c'est une parole inspirée. Et donc, tu dois faire marcher ton intelligence et ton cœur. Mais lorsque tu fais pas ça, et que tu donnes un côté magico-religieux à la Bible, eh ben ça donne des dérives comme l'esclavage. Il y a un livre qui a été écrit par Catherine McLaughlin qui explique 12 raisons de ne plus croire au christianisme, mais pourquoi y croire quand même encore. Et un des points, c'est l'esclavage. Aux États-Unis, il y a très longtemps, mais malheureusement, il y en a encore aujourd'hui qui le pensent, ils disent « Mais Abraham avait des esclaves, hein, alors du coup, on peut en avoir aussi. » Vous voyez la grosse dérive pointer son nez ? Mais ça repose sur la Bible ! Mais oui, mais parce que tu crois qu'Abraham est un exemple sans faille. Parce que tu fais d'Abraham Dieu lui-même. Mais Abraham n'est pas Dieu lui-même. Abraham est pécheur comme toi et moi. Et Abraham a quand même dit à sa femme de coucher à être pharaon pour pouvoir avoir la vie sauve. Et pourtant, c'est un homme de foi compté juste aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire exactement ce que les hommes de Dieu ont fait, parce qu'ils ont fait des bêtises. Rappelez-vous quand même que David, il a quand même tué son meilleur pote pour piquer sa femme. Mais ça doit nous déculpabiliser. Ça nous déculpabilise. Est-ce que c'est une raison pour faire des bêtises ? Non. N'allez pas tromper votre femme ce soir, s'il vous plaît. Et la marche dans l'insainteté, elle existe vraiment. Mais peut-être pas comme on le pense. Donc, attention à comment on prend la Bible, le côté magico-religieux. Non. La Bible, on la serre sur notre cœur. Et on fait marcher notre intelligence. Ok ? Vas-y. Mettre la pression sous couvert d'appliquer la Bible. Et il est marqué dans la Bible que... Alors que quoi ? Si t'as divorcé, tu peux pas te remarier parce que c'est adultère. Ben, t'es écrit, oh, ça crie, c'est écrit. Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Est-ce qu'on est en train d'aimer lorsqu'on est en train de plaquer un verset de la Bible comme ça dans la tronche de quelqu'un ? Non. Est-ce que pour autant, c'est pas vrai ? Ben oui, c'est peut-être vrai. Ok, c'est même vrai. C'est vrai, je suis désolée. Quand on se marie avec quelqu'un et que pour finir, on divorce pour avec quelqu'un d'autre, je suis désolée. Il n'y a personne qui a envie de vivre ça. C'est pas une situation louable. C'est pas une situation où on sent que Dieu nous bénit. Non, c'est dur, des expériences comme ça. C'est pas facile. Mais on va pas plaquer un verset de la Bible comme ça dans la tête des gens. On n'aime plus quand on fait ça. Excusez-moi. Ok. On y va. Conclusion. Oh, je suis forte il midi. Sur quoi repose notre foi ? Sur quoi repose notre foi au final ? Hein ? Elle repose... Notre foi repose sur la foi de nos parents. Imparfaits qu'ils sont, ou parfaits, je ne sais pas quelle relation vous avez avec vos parents, mais Dieu t'a mis quelque part et il savait ce qu'il faisait. D'accord ? On ne va pas cracher sur nos parents. On ne va pas cracher sur nos parents, non. Ensuite, notre foi repose sur nos convictions de cœur dans notre vie personnelle. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ne sois pas toujours à dire qu'il faut se méfier des émotions. Je ne supporte plus d'entendre ça. Attention, hein, nos émotions parfois nous trompent. Je ne dis pas le contraire, c'est vrai. Hein, si tu claques la porte de l'église comme ça, je n'ai marre. Il y a peut-être une petite gestion d'émotions à faire. Ok ? Mais fais-toi confiance. Fais confiance en ce que Dieu dit dans ton cœur. convictions. Ensuite, notre foi est renforcée sur une expérience surnaturelle. Ouais. Et oui. Et c'est super de vivre ça. C'est génial. Franchement, pour l'avoir vécu, pour le vivre encore aujourd'hui, eh ben c'est génial. Mais si ta foi repose que sur ça, c'est mort. Petit oiseau, Seigneur, ok, d'accord, c'est pas grave, Seigneur, petit oiseau, il n'est pas ressuscité. Ou peut-être que tu l'as ressuscité une fois que je ne l'ai pas vu, que j'ai mis dans le jardin, juste pour me taquiner. Ta foi ne doit pas reposer que sur le surnaturel. Et si tu es dans une saison sans, par exemple, moi j'ai l'impression d'être dans une saison sans, voilà. Non, tu n'es pas dans une saison sans. Est-ce que je suis tiède? Ah, je suis tiède parce qu'il n'y a plus rien de surnaturel, je suis tiède. Ah ben le Seigneur, il va me cracher de sa bouche alors, j'ai peur. Non. Si tu aimes toujours Jésus de tout ton cœur, tu n'es pas tiède. C'est pas parce que tu vis pas des trucs de ouf dans ta vie que tu es tiède. Repose-toi sur le Seigneur, laisse-le gérer. L'Esprit Saint va et vient comme il le souhaite. Acceptons cela. Et continue à prier les uns pour les autres. Hein. Bah. Mais s'il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de guérison. Et est-ce qu'on doit culpabiliser? Non, on baisse la pression évangélique que nous sommes. Baissons la pression. Hein? On est dans l'attente. Et puis ça nous évitera aussi de faire un peu ce sort de gourou, hein, où on idolâtre un peu quelqu'un. Ah oh oui, lui, oh, il y a du charisme, lui. Ah, oh, il va dans la rue, il prie, puis les gens sont guéris. Ah, oh, bientôt, on va s'évanouir. Non. Non. Non, non, non. Notre foi repose sur le témoignage et l'enseignement de l'Église. Frères, sœurs, c'est tellement important qu'on soit ensemble. Tellement. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on se dise les choses. On va y arriver. On va y arriver. Mais d'abord, il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on ait foi qu'on va y arriver ensemble. Il faut qu'on guérisse de nos blessures. Il faut essayer. Il faut essayer. On n'a pas le choix. C'est comme ça que tout a commencé avec Abraham. Comme pour les chrétiens, c'est comme ça que tout a commencé. Moi, même si j'ai mal quand je dis ça, je vous le dis, j'ai le cœur gros, hein. J'ai été blessée, hein, par les chrétiens. Mais je vais y croire quand même. Je vais remettre ma foi dans ce que le Seigneur a décidé. Vas-y. Notre foi repose sur la bonne interprétation de la Bible. Et on peut trouver la bonne interprétation ensemble. Je vous en conjure, allez faire des études de théologie. L'Esprit Saint fera le tri. Mais apprendre l'exégèse, la sotériologie, toutes ces choses-là, ça vous donne une colonne vertébrale. Et vous allez pouvoir discerner lorsque quelqu'un dit une grosse bêtise et le reprendre avec amour. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un jour, c'est nous qui disions des bêtises. J'en ai dit des bêtises aux jeunes, hein, quand j'étais chez les cathos. Et peut-être que j'en dis encore aujourd'hui, je m'en rendrai compte dans 10 ans. Mais le Seigneur fait avec. Voilà, je pense que c'est fini. Alors, j'espère que ce message vous a touché le cœur, que ça vous a encouragé à vous faire confiance, à faire confiance en l'Église. Et j'ai vraiment à cœur qu'on prie tous ensemble.